Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous portez bien. J'ai le grand plaisir de vous présenter cette semaine le premier épisode hors série de notre émission, dont le sujet est un merveilleux film sur la marche intitulé tout simplement « À pied ». Ce long métrage reflète avec profondeur et sensibilité, grâce à de touchants témoignages de gens d'ici et d'ailleurs, tous les bienfaits que renferme le cercle de la marche de notre ami Francesco Crosato, l'homme qui marche partout. Au cours de la prochaine heure, je m'entretiens avec Vali Fugulin, la réalisatrice du film, et Raphaël Ettore, à qui l'on doit l'idée originale de cet éloge à la marche et à la lenteur. En toute candeur, nous réfléchissons à l'urgent besoin de ralentir et de repenser notre manière d'habiter un monde face à un rythme d'accélération exponentielle souvent hors de contrôle. Nous explorons ensemble comment la marche permet justement de transformer pour le mieux la vie dans toutes ses dimensions, physique, sociale, politique, spirituelle et existentielle. Je vous souhaite bonne écoute et bonne réflexion. Bonjour Vali et Raphaël, et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour Marcher vers le bien-être.
Merci de nous avoir invités.
Je dois d'abord vous féliciter pour votre merveilleuse production. À mon avis, c'est un petit chef-d'œuvre à voir absolument.
Merci, on est heureux de ça.
Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le film, vous pourriez peut-être nous en donner un aperçu. D'abord, Vali.
Oui, donc « À pied », c'est un long métrage documentaire qui va à la rencontre de différents personnages, des vrais gens, qui ont en commun une passion de la marche. Alors, c'est à la fois des marcheurs et des scientifiques qui s'intéressent à la marche. Et ensemble, ils nous font retomber en amour avec l'acte si simple et fondamental qu'est la marche.
Absolument.
C'est aussi un film qui offre une magnifique richesse visuelle qui, en fait, traduit un peu l'aspect universel de la marche à travers, c'est ça, des personnages variés, mais aussi qui proviennent un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une ode à l'humanité. C'est vraiment aussi souligner ce qu'on a tous en commun. Puis
la marche en fait partie.
C'est ça.
Oui. Alors, lors des présentations que vous avez faites ici à Montréal et un peu partout au Québec, elles ont été suivies par des sessions de questions-réponses. Quel genre de commentaires ont fait les
On est très heureux à date. Trois-Rivières, Québec, Montréal et d'autres villes qui s'annoncent cette semaine. Donc, les gens, je crois, ont un immense coup de cœur. Enfin, on reste dans l'accueil de tout ça, mais il y a un enthousiasme vraiment grand envers le film. Les gens disent que ça leur fait du bien, qu'ils font justement un beau voyage à travers le monde, qu'ils découvrent, qu'ils apprennent et que c'est pas moralisateur. En tout cas, il y a un gros coup de cœur à date. C'est, on est ravis.
Oui, puis aussi, on a eu à quelques reprises des gens qui semblent être passionnés de la marche, mais que visiblement, tu sais, qu'on parle pas énormément, puis que suite au QNA, ils nous parlaient de leur expérience avec la marche, de leur engouement, puis que ça les a vraiment touchés, puis tu sais, on sentait vraiment cette ferveur, finalement, je peux en parler ou je peux en partager. Donc, c'était vraiment super, de voir que ça attire ce type de gens-là, mais aussi des gens de tout horizon. On a eu beaucoup de questions sur, évidemment, les personnages, beaucoup de gens qui voulaient en savoir plus aussi. Puis, évidemment, des très beaux commentaires sur comment on a pu englober un sujet aussi large dans un film, puis d'être capable de passer autant d'informations en même temps sous une lentille aussi poétique. Donc, écoute, on a été choyés, là. Moi, je suis aux anges.
Moi aussi.
C'est valorisant quand même. Ça fait plaisir après toutes ces années de travail, dans le fond. Hein?
Oui, on accueille vraiment, quand on présente un film au public, comme ça, on ne sait jamais comment ça va se passer, même si on a fait notre travail du mieux possible. Mais quand on est dans la salle, évidemment, on sent un peu le mood, la vibration. Est-ce que les gens réagissent bien? Puis je me disais, est-ce qu'ils vont s'ennuyer? Est-ce qu'il y a des moments où ils vont décrocher? Puis il y a vraiment quelque chose de magique, je pense, qui s'est passé à date dans les salles où... on sent que les gens sont accrochés dans le voyage à pied. Et puis, beaucoup de chaleur et d'enthousiasme. Puis, fait que c'est gratifiant, oui. Beaucoup d'années de travail.
Oui, tout à fait. Est-ce que les gens étaient plus âgés, plus jeunes, une bonne brochette, un bon éventail d'âge?
Je dirais un bon éventail d'âge.
Oui.
Je dirais peut-être un peu moins les jeunes, donc je dirais mi-trentaine et plus, mais les commentaires de chacun, c'était au même niveau. Là, c'était pas comme si qu'il y avait des différentes lectures. Là, la lecture est pas mal la même de toutes les tranches d'âge, donc je trouve ça super parce qu'au final, c'était ça le but, de faire un film universel qui est pour tout le monde.
Oui, oui. Alors, il y a les images, évidemment, qui sont importantes dans un film. Il y a la narration, mais il y a aussi l'idée du départ, la justesse du concept au départ. Et je me tourne vers vous, Raphaël, parce que c'est vous, en fait, qui avez eu l'idée du film. Comment c'est venu?
Ben moi, en fait, j'ai toujours été, depuis plusieurs années, vraiment intéressé aux faits qui sont universels, qui sont propres à notre espèce, aux humains, qu'on partage tous. Puis, en y pensant, j'ai pensé à la marche. Puis j'ai commencé à réaliser que c'est quelque chose qu'on partage tous, puis que on y pense pas en même temps. Et donc j'avais ça qui me trottait en tête. Puis, en fait, ça s'est vraiment concrétisé au début de la pandémie, lorsque ma grand-mère, avec laquelle j'ai grandi très proche lorsque j'étais jeune, est décédée au début de la pandémie. Elle, à ce moment-là, était de retour dans son pays natal, en Italie. Moi, j'étais pris à Montréal. Puis quand on était jeune, son activité préférée, c'était d'amener moi et mon frère, parce que c'est une personne extrêmement hyperactive et curieuse, de nous prendre, d'aller dans un métro, un train ou l'autobus, d'aller dans un terminus, puis de débarquer, puis de marcher pour explorer. Fait que ça, c'était son activité favorite qu'elle nous apportait à chaque fin de semaine de faire.
C'est formidable.
Ouais.
C'est tellement beau.
Et donc, lorsqu'elle est décédée, puisque je pouvais pas aller à son funérail en son honneur, j'ai décidé de retracer certains chemins qu'on a fait ensemble, donc dans différentes places de la ville. Puis c'est aussi une époque où est-ce que j'avais perdu mon emploi, j'étais pas bien, c'était la pandémie. Puis à force de faire ces marches-là, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Puis à un moment donné, je me suis dit, coudonc, sais-tu à cause que je marche autant? Puis ça m'a donné envie de savoir pourquoi. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, sur la marche, au début par rapport au bien-être, à la santé mentale. Puis ensuite, force de faire des recherches, parce qu'en plus, on avait beaucoup de temps, je suis tombé sur une multitude d'informations absolument incroyables et fascinantes que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, j'ai commencé à rapatrier ces informations-là. Mm-hmm. Mais aussi, j'ai eu l'idée de, encore une fois, puisqu'on était dans la pandémie et qu'on avait beaucoup de temps, de contacter certains de ces scientifiques et de ces professeurs d'un peu partout dans le monde, faire des entrevues avec eux.
À brûle pour point, comme ça.
Directement. Mais là, à ce moment-là, j'avais déjà un pas mal de recherches.
Oui.
Puis j'avais déjà contacté aussi Ziad, le producteur du film, avec cette idée-là, qui est un ami de longue date, que j'avais proposé, que je trouvais ce sujet intéressant, qui lui disait, c'est super. Puis il me dit, ça serait bien si tu pouvais creuser un peu plus. Et c'est de là où est-ce que j'ai eu l'idée de contacter. Et donc, s'en est suivi des superbes rencontres que j'ai enregistrées sur Skype ou Zoom à ce moment-là. Puis en fait, on a fait un premier podcast qui va être lancé prochainement de toutes ces informations-là, puis des entrevues-là qui ont aussi servi par la suite à commencer à concrétiser nos idées pour en faire un film. Et c'est de là, avec ce matériel-là, qu'on a approché Tali, qui est une amie de Ziad et collaboratrice depuis longtemps. Et donc, Ziad m'avait proposé Dali comme réalisatrice pour le film. Et donc, on s'est assis. On a eu un appel qui devait durer au départ 30 minutes. Ça a finalement duré 2 heures parce qu'on est rentré dans tous les sens du sujet. Puis c'est là où est-ce que j'ai vraiment compris que, tu sais, Dali avait tout de suite compris non seulement l'importance du sujet, du message, mais aussi comment l'interpréter. C'était un gros challenge. Puis c'est ça, dès la première rencontre, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet puis savoir comment est-ce qu'on allait le placer. Donc.
Oui, oui. On en parlera tantôt parce que j'aimerais savoir, vous avez parlé à des gens un peu partout dans le monde, via Skype, via Zoom. Quelle était la réaction spontanée des gens? Ils étaient...
Mais c'était surpris. Je veux dire, moi, je sortais de nulle part. puis je leur contactais sur une étude super spécifique d'une publication que j'avais trouvée sur l'Internet. Puis donc, ils étaient ravis d'en parler, curieux. Puis quand je leur parlais que... C'est ça, je leur expliquais un peu mon parcours, puis comment je m'étais rendu là, ils trouvaient ça fantastique. Puis ça fait boule de neige. Puis ils m'ont référé d'autres gens. Puis même à force de leur parler des autres personnes à qui je parlais, c'est arrivé à deux reprises où est-ce que j'ai mis même en contact certains scientifiques ensemble selon les études qu'ils faisaient. Donc une personne qui était en Australie avec une autre qui était en Angleterre. Puis donc en fait, c'est là où est-ce que j'ai eu un peu la confirmation que OK, il y a définitivement de quoi faire ici parce qu'il y a beaucoup de liens à tisser, puis la réponse, puis l'enthousiasme. Donc ouais. Mm-hmm.
Donc vous avez mis le doigt sur une petite communauté de marcheurs au niveau de la planète.
Ben, à ce moment-là, c'était des scientifiques, surtout, que Raphaël avait contactés. Puis à partir de ces recherches-là, qui faisaient un bon 160 pages, quand ils m'ont contacté au départ, je me suis dit, oh, mais mon Dieu, mais est-ce qu'il y a tant de choses à dire que là-dessus, sur la marche?
On pose toujours la question, mais comment vous parlez de la marche pendant des années?
Oui, c'est ça, ben... Honnêtement, au début, je me suis vraiment demandé s'il y avait quelque chose à dire sur le sujet, ne connaissant pas beaucoup le sujet. Puis après avoir parlé à Raphaël et rencontré et plutôt lu sa recherche, ben là, j'étais convaincue qu'il y avait un film qui pouvait se faire, mais peut-être avec un angle en ouvrant vers l'humanisme, donc en allant, avec la science, mais aussi avec des humains qui incarnent cette science.
J'aimerais revenir, Raphaël, sur votre recherche et un certain Jeremy De Silva.
Oui, donc un anthropologue fabuleux. C'est quelqu'un qui a un talent incroyable pour expliquer.
De communicateur, de vulgarisateur.
Oui. Lui, en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé durant ses études pendant des années comme guide dans un musée d'anthropologie. Donc, il y a eu la parole facile où, en fait, il a pratiqué. Et donc, lui, avec une anthropologue de Montréal, Michel Drapeau, que les deux se connaissent et qui ont collaboré ensemble. D'ailleurs, elle a aussi l'aidé à ce qu'il fasse ses recherches sur son livre, que je vois d'ailleurs ici sur la table. Studio. Et ça a été les premiers que j'ai contactés dans les premières étapes parce que c'était vraiment... Ben, Jeremy parle des origines méconnues de la bipédie, parle aussi du fait qu'on n'est toujours pas certain si on a évolué de quadrupède et qu'on était déjà bipède. Donc, lorsque j'avais découvert ça, j'avais trouvé ça absolument fascinant qu'aujourd'hui, ben, à l'époque, ben, même encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi et comment on marche. Évidemment, il y a plusieurs théories, mais qu'on n'a pas la recette exacte. Donc, moi, je trouvais ça absolument incroyable. Et donc, ben, Jeremy, il m'a répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Michel Drapeau aussi. Puis, on a fait une entrevue croisée à trois. Puis, c'était... Là, j'étais piqué.
La passion était complète.
Le bon virus.
Oui, le bon virus. Tout à fait.
Ce que je retiens de Jeremy, c'est une idée, un concept qui nous dit que la marche a façonné l'être humain que nous sommes devenus, mais au point de vue technologique, langage, nourriture, notre mode de vie. Alors c'est le fait, la réalité que nous sommes devenus bipèdes, que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui.
Tout à fait. Puis moi, je pense que c'est ça une autre des raisons pour laquelle... Mais à l'époque, il n'avait pas encore lancé son livre, mais il parlait beaucoup de ça durant l'entrevue que j'ai fait avec lui. Puis les quelques articles que j'avais lus de ses publications scientifiques, parce que en fait, ça englobait exactement ce que moi, j'avais le filon puis que je voulais définir, c'était justement les implications énormes et l'éventail des implications de la marche pour nous, pour notre société, pour notre espèce. Et lui, c'était quelqu'un qui le voyait déjà hyper clairement. Là. Donc, c'est pour ça que j'étais vraiment attiré à lui puis à lui parler en premier lieu. Oui.
Alors, Valérie, on parlait il y a quelques instants de la concrétisation du projet, c'est-à-dire on part du concept et on va au grand écran. C'est tout un défi. Comment on réalise ça?
Ouh, c'est notre travail de faire ça, mais on a beaucoup parlé avec Raphaël, avec Ziad, du scénario, de comment on articulerait ces idées scientifiques dans un film avec des gens comme vous et moi. Parce que l'idée, c'était bien sûr d'apprendre des choses, mais on voulait pas faire un film, comme on dit dans notre jargon, de tête parlante, là, c'est-à-dire oui. des savants ou des savantes qui se succèdent à l'écran puis qui nous expliquent de manière très didactique. On voulait certains de ces scientifiques à l'écran, mais on voulait aussi des gens, entre guillemets, ordinaires, qui marchent et qui, eux, par leur marche quotidienne, ils représentent un peu la science, mm-hmm. soit la longévité, le fait de marcher dans une certaine précarité, le fait de tisser des liens sociaux, le fait de se guérir. Enfin, on avait comme des, je vais les appeler des faits saillants de recherche, puis on cherchait une personne qui allait comme incarner chaque fait saillant. Un peu, donc, c'est pour ça qu'on a fini avec 12 personnes dans le film qui représentent chacun un angle différent de la marche ou un sujet un peu différent de la marche. Et ensemble, c'est comme ça, c'est un peu un kaléidoscope. Ensemble, ils nous font faire vraiment le tour du sujet. Mais ça a été beaucoup de travail d'arriver à ça. Là. Ça a l'air simple, mais on s'est entendu sur le fait qu'on voulait faire un film humaniste et oui. qu'on voulait que les gens puissent s'identifier aussi aux marcheurs. On voulait pas des marcheurs de performance, des gens qui ont marché 10 000 kilomètres ou qui ont fait Compostelle 3 fois.
C'est des gens qui vivent la marche tous les jours.
Exact. Oui, c'est des gens, oui, oui. tu sais, j'aime bien dire, c'est des extraordinaires. Donc, des gens ordinaires, mais qui sont extraordinaires à la oui, fois, qui sont très touchants ou qui sont capables de nous partager leur passion de la marche, mais à la fois auxquels on peut vraiment s'identifier. C'est ben moi, oui, et je pourrais marcher comme elle ou lui. C'est pas... on voulait que ce soit très accessible et très humain.
Alors, ça prend une bonne complicité entre vous deux, là.
Ben oui.
Oui, oui, c'est sûr. Puis mais moi, je pense qu'on le voit transparaître dans le film avec, justement, comme elle disait, ce mélange à la fois scientifique, mais aussi humain, qui a été, en fait, à mon avis... le gros morceau du travail du film était justement de ficeler tous ces personnages-là dans les créneaux qu'on voulait discuter, puis de pouvoir aussi en même temps passer l'idée que ce soit international, de montrer des images d'un peu partout. Donc en fait, c'était on avait les idées claires. Mais après, dans l'exécution, évidemment, puis là, bon, mais Valie pourra en parler, là, de toutes les péripéties et pirouettes pour trouver les bonnes personnes. Mais, mais donc, au final, oui, c'est cette collaboration-là a porté fruit à un film très équilibré qui répond exactement au message qu'on voulait, on voulait partager.
Et il y a toujours la considération du coût, n'est-ce pas? Vous avez...
Ben oui, on a des budgets.
Petits, hein?
Ben, c'est sûr que le Québec a un bon système, quand même, qu'on apprécie de financement, SODEC, Téléfilm, le Fonds TELUS, qui nous ont soutenus. Mais pour faire un film à travers le monde, un film portée internationale, il fallait qu'on soit très créatif et créative dans le budget. Donc, on a tourné en très, très petite équipe, souvent à 2 personnes, avec quelqu'un qui nous traduisait sur place. Et on a vraiment pris des moyens aussi très légers, mais qui avaient un impact pour le grand écran. C'est un film qu'on voulait très cinématographique. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on dirait un film de la BBC. Là. J'étais là, OK, ça, c'est un beau compliment. Mais tu sais, de dire, c'est fait pour le grand écran, c'est fait pour nous faire voyager, le son aussi. Donc, à la fois, beaucoup de débrouillardises être agile, comme on dit, pour faire le maximum avec chaque sou.
C'est ça.
Pour que ça paraisse à l'écran.
Mais c'est ça aussi, pour moi, l'importance de collaborer. Ben d'un, moi, je suis pas réalisateur, j'ai jamais réalisé de film, mais aussi d'avoir quelqu'un d'expérience qui était capable de porter justement une idée comme ça, mais aussi selon ce que j'avais vu du travail de Valie, que je voyais qui était magnifique, que j'avais en totale confiance qu'elle allait être capable de réaliser ça de manière poétique, visuellement puissante. Puis elle, on a partagé le premier tournage à New York ensemble. Malheureusement, faute de budget, j'ai pas pu participer à tous les tournages autour du monde, mais j'ai eu la chance de participer à un premier tournage. Puis j'ai vraiment vu Valie sur le terrain, puis sur l'action, puis c'était vraiment super beau à voir parce que Ben c'est ça, c'était guérilla shooting. Donc si on était dans les rues de New York avec valise et sacs à dos pleins de batteries avec une autre personne prenait. C'était vraiment surprenant à voir, puis d'en voir après le résultat en image, on penserait jamais. En tout cas moi quand je me rappelle comment on était, je me disais comme je sais pas comment ça va avoir de l'air sans l'écran. Ça... Mais non, waouh. Donc vraiment à l'honneur de l'expérience de valise et son équipe là, franchement.
Merci ouais. Raphaël. Oui j'ai fait le son. Donc, c'est une chose que j'avais jamais fait avant, mais je faisais la prise de son. Puis, on avait un directeur photo qui faisait la caméra, la technique, donc, puis l'appui de Raphaël pour le premier tournage. Mais tu sais, c'est vraiment l'idée de tourner à deux le plus possible, ce qui nous a permis de faire plus de voyages. Mais oui, des fois, les gens nous voyaient arriver avec notre petit kit. Puis, je voyais dans leur visage, je disais, c'est qui cette petite équipe?
Ça fait amateur un peu, hein?
Ben, ça pourrait. Oui. Mais après, quand ils voyaient les images, voilà. Il disait, oh, OK, ça va être correct.
Oui. Mais c'est ça, on ne penserait jamais, justement, la qualité de production est excellente.
Elle est phénoménale.
Très haut niveau,
oui. Oui. Alors, j'ai une autre question fondamentale. Pourquoi faire ce film? C'était quoi vos objectifs?
Mon Dieu, partager l'humanité, inviter les gens à ralentir, à habiter le monde autrement. Il y a vraiment une polarisation aussi de « je suis différent de toi, nous ne sommes pas égaux » ou peu importe, puis le monde ne va pas très bien. Donc, d'avoir des sujets, comme disait Raphaël tout à l'heure, des sujets universels qui nous montrent ce qui nous relie plutôt que ce qui nous sépare. Et peut-être un côté accessible aussi.
Oui.
Tu sais, on a besoin de se faire rappeler les choses des fois fondamentales. Je pense que pour moi, c'est ce qui m'a vraiment touchée dans la proposition de Raphaël.
Oui, moi, je rajouterais aussi que, tu sais, bien que j'ai fait des années de recherche sur le sujet, puis que, bon, j'ai une relation avec la marche, disons, privilégiée, mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui marche des kilomètres et des kilomètres par jour. Je l'incorpore dans ma journée tous les jours, comme je peux. Puis c'est vraiment, moi, pour moi, une des motivations principales est celle de faire réaliser aux gens l'importance de chaque pas. Qu'on n'a pas besoin de faire 10 000 pas ou de marcher 3 heures par jour. Non, c'est d'être conscient du geste qu'on pose. Puis le fait d'être conscient de ce geste si simple va inévitablement nous faire en faire plus. Et aussi va nous faire l'apprécier plus. Donc, pour moi, c'est ça à la base.
C'est ça.
Souvent, à date, les gens qui sortent du film disent « Ah ben finalement, j'ai pas pris l'autobus. J'ai marché 3 arrêts, puis là, j'ai pris l'autobus. »
Oui,
ou
oui.
« Ça m'a fait penser que je pourrais marcher. » Tu sais, fait que je pense que l'idéal dont Raphaël parle, il se ressent chez les gens qui voient le film.
Tout à fait. Je l'ai senti aussi selon les commentaires. Ouais.
J'ai vu une description. On parle d'une ode à la marche et à la lenteur. Il faut ralentir dans une vie qui est accélérée, mais au maximum.
Tellement. Il y a une phrase, un fait de recherche que Raphaël avait sorti que je trouvais formidable. C'était l'idée qu'on a évolué l'être humain pour fonctionner à 5 km/h, qui est la vitesse humaine, la vitesse de la marche. Et cette idée-là me hante depuis, parce que si on va plus lentement, c'est-à-dire si on est sédentaire, ça va pas bien pour nous. Et si on va plus vite que ça, ça va pas très bien pour nous non plus. Donc, cette idée qu'à 5 km/h, notre corps se replace, nos idées se replacent, notre cerveau trouve son équilibre, nos liens sociaux sont plus faciles à faire ou à maintenir. Il y a toutes sortes de choses. Fait que pour moi, c'est resté... Le film aurait presque pu s'appeler 5 km à l'heure, mais à pied, c'était plus beau.
C'est la vitesse optimale de l'humain.
Exact.
Ça? Oui,
exact.
Pour vivre la vie.
Moi, ça m'a donné une image mentale qui me reste depuis.
Ah oui. Écoutez, avant de rencontrer nos protagonistes du film et un peu pour nous mettre dans l'ambiance... Écoutons ensemble un extrait de la bande-annonce du film.
Les pas qui nous conduisent à destination sont aussi ceux qui racontent notre histoire. Mais au-delà du mouvement, il y a la manière de prendre sa place dans l'espace.
Quand on marche, On réfléchit à notre pensée, on voit le présent, on voit la nature, on voit les choses de façon différente. Le temps est long quand on marche.
What is unusual about humans today is not our ability to walk, it's the fact that we don't do it very much anymore.
Having the opportunity to design my own legs just made me want to try absolutely everything.
Chaque démarche est un langage qui raconte ce qu'on est.
Quand le robot marche, à la fin, on ne sait pas comment il est arrivé.
Mille choses peuvent nous passer à travers le corps dans une marche. Ça dépend où on marche, pourquoi on marche, avec qui on marche. Marcher vite, marcher lent, marcher de reculons.
Il y a autant de raisons de marcher qu'il y a de gens qui marchent. Suivre leurs traces, c'est écouter ce qu'ils ont à raconter. Sous leurs pas, c'est notre histoire qui s'écrit.
Nous sommes en compagnie de Vali et de Raphaël. Parlons maintenant justement de nos protagonistes du film. Vali, votre coup de cœur, c'est qui?
C'est un peu comme des enfants. Là, on les aime tous également. Je les aime beaucoup, les gens dans le les protagonistes du film. Je dirais que mon coup de cœur, c'est Madame Yamada. Donc, c'est une femme japonaise de près de 90 ans qui marche dans son quartier. Je trouvais ça important dans le film d'avoir quelqu'un qui avait vécu dans un environnement sans voiture. Et comme je voulais voir comment cette personne, comment sa longévité, sa santé aurait pu être positivement influencée par le fait d'avoir marché pas mal toute sa vie. Donc, on cherchait une grand-maman ou un grand-papa qui marchait beaucoup. Et ça a été très compliqué à la trouver parce que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Quelqu'un qui marche, qui a un certain âge, il y en a partout. Mais on voulait donc un endroit, une ville ou un quartier où il n'y avait pas de voiture. Donc, on a cherché à Venise.
Oui.
On a cherché dans des villages en altitude où il n'y a pas beaucoup de chars, comme on dit au Québec. Et finalement, on l'a trouvé à Tokyo. Et donc, Madame Yamada est adorable parce que elle a commencé à marcher tard dans sa vie à 70 ans, quand sa propre mère est décédée.
Il faut dire que Madame était souvent malade aussi.
Oui,
hein, c'est ça.
Elle le dit, elle était souvent malade et depuis qu'elle marche, elle dit se sentir mieux, elle voit le monde autrement autour d'elle, elle remarque les fleurs du printemps ou la nature changer au fil des saisons. Et en plus, le plus important, c'est qu'elle dit « en marchant, je me fais des amis ». Donc, elle représentait un peu la longévité, mais aussi le lien social.
Oui.
Le lien social que peut être la marche. Parce que marcher, c'est pas juste mettre un pas devant l'autre, c'est aller à la rencontre des autres. Et quand on marche dans un quartier au quotidien, on peut voir les changements dans notre communauté. Ah, il y a un nouveau bébé là. Ah tiens, j'ai pas vu l'autre depuis un certain moment. Toutes ces choses qu'on prend pour acquis un peu, mais qui se passent pas dans des endroits où tout le monde est en char, justement. Dans certaines villes qui sont très, très centrées sur la voiture, on le voit pas, notre voisin. Je trouvais que finalement, Madame Yamada, qui est si attachante, fait ce travail-là dans le film de nous montrer comment c'est important pour les liens du quotidien, les liens humains. Puis en plus, ça fait partie d'une patrouille de sécurité.
Ça, c'est intéressant, oui.
Elle est adorable. Donc, c'est une patrouille de gens de son âge, donc à peu près 90 ans, qui, à cause d'un cambriolage qui a eu lieu il y a 20 ans à peu près, depuis 20 ans, ils marchent tous les jours dans les petites rues piétonnes.
Mais
pour
ils sont
s'assurer
combien?
De... Oh, ils sont comme une douzaine à peu près.
Ah oui?
Oui, ils sont une douzaine, ils marchent tous les jours. Puis dans le fond, c'est un club social parce qu'on s'entend qu'une douzaine de nonagénaires font pas très peur aux cambrioleurs. Et il n'y a pas l'air d'avoir ben cambriolage non plus.
Oui.
Mais ils sont tellement adorables. Donc,
mais c'est un club de marche.
Ben oui, c'est un rythme de marche.
Tout en ayant une fonction quand même importante.
Puis elle le dit, elle dit, des fois, on a de la misère à parler de certains sujets avec notre famille, mais avec mes amis marcheurs, je peux parler.
De l'intime, oui, c'est ça.
Je peux parler de choses plus difficiles, donc gros coup de cœur pour Madame Yamada, même si elle a été si difficile à trouver.
Et comment vous l'avez trouvé là? Je suis curieux.
Ah ben là, c'est notre... on avait, dans chaque pays, on avait un interprète qui nous aidait à préparer le tournage. Puis, quand j'ai dit, ben on cherche une femme âgée, on ne l'a pas trouvée à Venise, on ne l'a pas trouvée dans nos petits villages. Est-ce qu'il y aurait moyen d'aller voir dans un quartier piéton de Tokyo, voir si on pourrait la trouver? Il dit, ah là là, c'est compliqué votre affaire. Mais il dit, ben j'ai un ami fleuriste qui a sa boutique sur une rue piétonne, dans un quartier qui est très sympa. J'ai dit, ben, ça serait une bonne idée. Il dit, je vais l'appeler. Puis effectivement, l'ami fleuriste avait cette cliente, Madame Yamada, qui vient chaque semaine acheter des fleurs. Et donc, le miracle, on l'a trouvé.
L'aiguille dans la boîte de foin.
L'aiguille dans la boîte de foin, oui. Oui, parce que tout le monde marche, mais on voulait des gens aussi très attachants.
Raphaël, votre coup de cœur.
C'est, comme Valie disait, vraiment difficile, surtout pour moi, parce que les personnages viennent chercher tellement de points importants, chacun d'entre eux. Là, mais ben, Jeremy De Silva, mais j'en ai déjà parlé, fait que j'ai le droit d'en choisir un autre. donc, je vais aller avec Garnett Cadogan.
Oui,
Garnett Cadogan, puis ça rejoint un peu ce que Valie parle, décrit, c'est l'aspect social. C'est son histoire incroyablement touchante de sa jeunesse. En Jamaïque, lorsque lui, il parle de la découverte de l'école de la rue, en fait, ne pouvait pas rentrer à la maison quand il était jeune parce que son père était de nature violente et alcoolique. Donc, il préférait, au lieu d'aller à la maison et retrouver son père de cette manière-là, passer du temps dans la rue, de marcher, de découvrir, d'aller à la rencontre de la vie. Donc, c'est cette idée, justement, de la richesse qu'on peut trouver simplement en sortant de la porte de chez nous et de ce que ça nous apporte, puis des liens qui peuvent se tisser. Puis aussi, évidemment, il explique plus tard, lorsqu'il a émigré aux États-Unis, la réalité pour différents types de personnes de marcher en société au niveau de danger.
Parce qu'il est de couleur noire.
Voilà, parce qu'il est de couleur noire, mais aussi pour des gens handicapés ou pour des femmes. Et donc, pour moi, c'était vraiment premièrement, il est absolument fantastique dans la manière qu'il explique son récit puis ses propos, mais surtout aussi, c'était un témoignage qui démontre vraiment l'énorme éventail d'effets que la marche a dans notre société. Puis comment aussi on pense qu'un truc, un geste aussi simple, mais qu'en réalité, peut avoir tellement de conséquences pour différentes personnes. Mm-hmm. Donc,
oui.
Puis ce que j'aime de Garnett, juste pour compléter, il l'avait dit en entrevue, on l'a pas gardé dans le film, il dit, moi, je marchais en zigzag. Le zigzag walk. Il dit, avec sa grand-mère, encore un écho peut-être à l'histoire de Raphaël, mais Garnett disait, avec ma grand-mère, on marchait en zigzag, on partait, puis là, on s'arrêtait chez une voisine. Puis là, on repartait dans une autre direction. Puis finalement, on se rendait jamais vraiment au point où on devait aller. Mais j'aime cette image de marcher en zigzag où tu erres un peu. Fait que je trouve ça beau, cette image-là aussi, de dire, c'est pas vraiment grave où tu vas, mais c'est ce que tu découvres en route.
Ce qu'on découvre.
À qui tu parles en route. Oui. Donc, voilà.
On vit la ville. On vit la ville, c'est ça, ouais.
Oui, lui en particulier, mais c'est, je sais pas, le zigzag walk, moi, ça m'est resté, ouais.
Il y a une chose qui frappe dans son témoignage, c'est de marcher la nuit, la beauté de marcher la nuit.
Vrai.
C'est vraiment exceptionnel. Ça m'a frappé.
Ben oui, c'est un autre univers. Tout change. On passe d'une place qu'on a certaines reconnaissances à une place où est-ce que le même endroit qu'on fréquente, mais sous un autre angle complètement, qui peut nous faire voir de différents détails ou nous faire vivre de différentes émotions. Puis c'est aussi le calme, dans certains cas, où est-ce qu'on a une relation beaucoup plus intime avec les lieux où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on marche. Donc oui, c'est super fascinant.
On part en voyage à l'autre bout du monde presque, et on se rend à Rio. Ça, c'est mon coup de cœur, mais je n'en parlerai pas. J'aimerais vous écouter en parler.
Ah, c'est vrai! OK, Nena. Ben, d'abord, je dois dire que pour le Brésil, on a demandé à Émilie Beaulieu-Guérette, qui est une réalisatrice amie qui a collaboré sur le film, de tourner pour nous, pour des questions budgétaires aussi de faisabilité. Et donc, c'est elle qui a trouvé Nena, qui est un vendeur de gâteaux dans les favelas. Mm-hmm. On cherchait d'abord un facteur, parce qu'on voulait avoir quelqu'un qui travaillait en marchant, mais qui était aussi un exemple de comment, dans le monde d'aujourd'hui, en fait, les pauvres marchent plus que les riches. Parce que plus on est riche, plus on a une voiture et plus on vit sur des terrains plats. Et donc, partout dans le monde, on retrouve un peu ce phénomène que les terrains accidentés sont comme relégués aux gens qui sont moins fortunés. Et je me disais, c'est quand même paradoxal parce que marcher devrait être notre plus grande richesse, mais les pauvres marchent plus que les riches. Et donc, on cherchait une personne qui marchait beaucoup sur des terrains accidentés et qui marchait pour gagner sa vie. Et donc, on s'est dit, ah, un facteur, tu sais, ce serait un facteur qui travaille dans un contexte de terrain abrupt. Puis on l'a pas trouvé, mais Nena est apparue. Donc, lui, il vend des gâteaux, des tartelettes dans les favelas de Rio, en chantant, en criant sa chanson de vente, qui est une espèce de samba en même temps. Et Nena est très attachant. Il marche 5h30 par jour pour gagner sa vie. Et lui aussi, il sert un peu de lien, mais lui, c'est lui qui prend les nouvelles de tout le monde. C'est lui qui tisse un peu les fils entre toutes sortes de gens de la communauté.
C'est un peu comme la poste.
Un peu comme la poste, exactement.
On transmet les messages.
Exact. Puis il dit quelque chose qui est vraiment beau, c'est que au Brésil, la favela s'appelle, bon, la favela, mais les quartiers plus riches, ils les appellent l'asphalte. Fait que je trouvais ça beau, que dire, quand t'es plus fortuné, quand tu vis dans un quartier de classe moyenne, tu vis dans l'asphalte. Carrément, les quartiers s'appellent comme ça, asphalte.
Les grands boulevards, les grandes rues, c'est ça. Ouais.
Genre, les quartiers de gens aisés, c'est l'asphalte. Mm-hmm. Il dit, mais nous, on n'a pas d'asphalte, mais on a de l'entraide, on a de l'amitié. C'est comme un philosophe de la rue, Nena. Ouais. Mm-hmm.
Oui.
Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur Nena.
Non, ben c'est aussi un personnage extrêmement attachant, évidemment brésilienne, donc avec un charisme inné, les échanges qu'il y a aussi avec les gens dans son quartier là, qu'on voit sont à la fois rigolos puis joie de vivre, vraiment quelqu'un de profondément humble, puis qui voit aussi la vie avec une clarté rare, tout en vivant une vie ultra simple. Donc, magnifique.
Dans les notes que j'ai prises, je retrouve lorsqu'il dit « La marche est très agréable. J'adore ça. Ça me rend heureux. » Et aussi, il parle d'amitié, d'humilité, de bienveillance.
Oui, il dit « La joie ». Il dit « Ça me donne de la joie ».
Oui.
C'est quand même beau.
Merveilleux, merveilleux. Au Québec, on va parler un peu de notre chez-nous. Il y a Stanley Volant,
qui
est un des personnages que vous avez choisi. Quel beau témoignage!
Oui, Stanley, c'est peut-être le protagoniste le plus connu ou presque, et c'est celui qui a le plus marché des longues distances. Mm-hmm. Mais on l'a choisi parce que, évidemment, son histoire m'était restée en tête. Je trouvais que d'exprimer la guérison à travers la marche, c'était très important, évidemment. C'était comme évident, mais il fallait quelqu'un qui l'incarne. Stanley parle très ouvertement de sa dépression qui l'a mené proche de la mort et qui l'a guéri pour lui en marchant à Compostelle. Mais c'est à Compostelle qu'il a eu cette vision de marcher sur le territoire de ses ancêtres puis aller à la rencontre des communautés autochtones, des jeunes. Donc, Stanley, pour moi, c'était à la fois la guérison, mais aussi affirmer son identité et aussi inspirer d'autres gens. Donc, tu sais, il y avait comme plusieurs aspects dans la quête de marche de cette année. Puis c'est une personne que j'ai toujours admirée, donc je m'étais mis en tête de le convaincre de participer au film. Ça m'a pris un an
Et pourquoi? Il est très occupé.
Il était extrêmement occupé, très sollicité. Oui. Il y a son projet Poimoun Meshkenou, qui est fondation qui fait la promotion de la marche auprès des Autochtones. Mm-hmm. C'est des marches aussi revendicatrices, à quelque part, pour s'affirmer.
C'est ça, changer le monde.
Carrément. Donc, c'est comme si Stanley, en une histoire, il y avait... peut-être 3 ou 4 thèmes là, différents. Mais il était juste très, très occupé. Puis on a réussi à s'attraper un peu par miracle. Et Stanley a vu le film hier.
Ah oui?
Oui, pour la première fois. Oui. Il était très ému.
Ah oui?
Très ému.
Oui.
C'est un beau témoignage, vraiment.
Il y a une thématique qui revient dans son témoignage. C'est de reconnaître et célébrer la force physique et mentale des ancêtres, parce que ces gens-là marchaient toujours, évidemment. Ils portaient des poids, mais que nous, sous lesquels on croulerait aujourd'hui. C'est la fierté des ancêtres.
Oui, je pense. Mais aussi de maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'il rappelle aux jeunes que les peuples autochtones, avaient cette force, étaient des athlètes. Et que, bon, c'est quelque chose qui a été brisé par le cours de l'histoire, malheureusement. Mm-hmm. Mais lui, en marchant, incarne aussi, ou en tout cas, il rappelle ce message que ces peuples-là ont, par leur corps, par leur force, étaient vraiment des athlètes. Et je trouve que c'est un beau message. C'est vrai que c'est important de se le rappeler.
Mmh. Il y a la force mentale, la force spirituelle aussi, des ancêtres.
Oui, moi j'aimerais aussi rajouter, parce que encore une fois, comme Valie l'a dit, c'est tellement un personnage riche qui amène tellement beaucoup au film, mais moi il y a un autre aspect que je trouve absolument fascinant. Donc Stanley, lui, pendant longtemps, il a été à la rencontre justement des jeunes dans des villages autochtones pour leur parler de sa pratique en tant que médecin, puis... Et lui-même le dit que lorsqu'il arrivait, soit en avion, en voiture, les jeunes le regardaient puis lui disaient « Ah oui, bravo, toi t'as réussi ». Mais là, quand il a décidé de faire ces mêmes parcours, mais d'y aller en marchant, donc d'aller à la rencontre des gens à la marche, ben la perception des gens a complètement changé, puis il a vu à quel point il pouvait beaucoup plus inspirer les jeunes. Donc moi, c'était l'idée d'utiliser la marche comme outil, comme mégaphone, que je trouvais vraiment absolument fascinant, de quelqu'un qui a compris, en fait, c'est quoi... un langage de la marche, de pouvoir connecter avec les gens juste par le simple fait de marcher pour ensuite aller l'un vers l'autre puis de partager après l'information. Fait que pour moi, je trouvais ça aussi incroyable.
Alors, Valie, il y a une autre personnalité du Québec, Louise Lecavalier. Vous nous en parlez.
Alors, Louise Lecavalier, chorégraphe et danseuse qu'on connaît, qu'on aime. Je trouvais important que dans le film, il y ait aussi une section sur l'expression. Parce qu'on s'exprime par nos pas de différentes manières. Il y a les émotions qui s'expriment, mais aussi des artistes qui prennent des pas et qui les transforment en art.
Par la danse.
Par la danse. Oui. Donc, quand on marche plus vite et de manière un peu créative, marcher devient de la danse. Marcher, ça fait partie de la danse aussi. Donc, Louise, pour moi, je l'avais vue dans plusieurs spectacles. J'aime beaucoup son travail. Puis, je l'avais vue marcher aussi sur scène. Puis, je trouvais qu'elle avait une démarche vraiment inspirante au niveau créatif et au niveau vraiment, tu sais, carrément sur ses deux pieds. La manière dont elle marche me fascinait. Des fois, elle marche aussi juste sur un pied, mais bon, ça, c'est une prouesse. Et donc, je lui ai demandé si elle accepterait de faire partie du film pour parler du lien, justement, entre la marche. Comment on peut s'exprimer à travers nos pas.
Mmh, oui.
Donc, le film va jusque-là dans la... Si on veut, elle décrit comment on marche souvent de la même manière. On fait souvent les mêmes pas, mais elle rappelle quand on est enfant, souvent on va marcher en sautant par-dessus les craques de trottoir, on va marcher les yeux fermés. Elle dit, ben marcher, dans le fond, si on se laisse aller un peu, marcher, ça peut être une danse. Marcher, c'est une danse.
Oui. Ce qui m'amène à parler de Jules Ross des États-Unis, que j'appelle le marcheur caméléon. Un peu comme Louise, il nous fait songer... Il nous fait penser au fait que notre démarche reflète un peu notre état émotionnel. Le lien est très serré entre la marche et l'émotionnel.
Absolument, puis il le démontre d'une manière tellement ludique et flagrante en même temps. C'est un personnage que Vali a amené au film, qu'elle avait déjà vu, je pense, dans les années 2000.
Ouais, dans les années 2000, je l'ai rencontré.
Qu'on a dû retracer parce qu'il avait arrêté, puis qu'en tout cas, il y a eu toute une autre histoire de recherche à ce niveau-là. Mais moi, pour moi, je lui ai tout compris. C'est incroyable quand il nous parle de comment la marche nous définit en tant que personne, nous définit en tant que nos intentions, nos émotions, puis comment il explique que tout commence des pieds, puis que ça remonte jusqu'à la tête, puis que lui, justement, à travers son travail, à travers son numéro, qui est capable de... Mais qui s'est entraîné à pouvoir de déchiffrer ça, puis de comprendre en quelques instants l'intention, les émotions, puis en fait la personne. Donc pour moi, ça c'était un segment vraiment encore ultra important parce que ça démontre vraiment à quel point c'est fondamental à qui nous sommes à tous les niveaux. Puis à quel point aussi la marche est un langage. Puis on est encore en train de développer un vocabulaire, d'essayer de comprendre, parce que notre subconscient, en fait, capte beaucoup des messages qu'on émane à travers notre marche, nos mouvements, mais on a des idées préconçues par la culture populaire de c'est quoi être confiant ou déprimé, mais ça va tellement plus au-delà de ça dans des minuties que... Et donc, je pensais que Jules était un parfait personnage pour représenter ça.
Et comme vous dites, il le fait de façon tellement ludique qu'il imite les gens.
En fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas... Pour les gens qui n'ont pas vu le film, en fait, Jules... Son travail, c'est qu'il imite les gens qui marchent. Oui. Il se place derrière les gens de manière subtile. Là, le marcheur voit pas, mais Jules est derrière, puis il épouse, il imite la démarche de la personne devant lui en une fraction de seconde. Mais c'est fou parce qu'il devient la personne. Donc, moi, je l'avais rencontré à Los Angeles parce que j'avais vu faire son numéro, comme on dit. Puis j'étais fascinée. Je suis allée le voir 10 fois, je pense. Je me disais, mais il est incroyable. Fraction de seconde, il imite la démarche, mais il devenait la personne. Son visage changeait. Puis bon, il me faisait beaucoup rire. Il fait beaucoup rire les gens. Il est formidable. Mais c'est comme si, comme Raphaël disait, tu sais, en imitant la personne, il lui dit qu'il ressent les émotions de la personne.
Ah oui, oui.
Il ressent la colère ou l'amour ou l'agressivité ou peu importe, le bonheur ou la déprime. Mais puis il dit, mon visage change parce que ma démarche change.
Il se ressent. Il ressent les émotions de l'autre.
Il ressent les émotions de l'autre.
Mais c'était en même temps un miracle de trouver cette personne-là, parce que sinon, on se disait, comment est-ce qu'on va expliquer ça, de ressentir les émotions à travers la marche? Je veux dire, mais c'est parfait, là. On n'aurait jamais pu trouver quelqu'un qui... c'est vraiment fabuleux.
C'est comme un philosophe de la rue. Puis il a étudié avec Marcel Marceau, tu sais, il a étudié avec des grands mimes ou des gens qui font du théâtre du geste, là, qu'on appelle. Tu sais, il dit on construit un personnage avec les pieds. C'est vrai qu'on, tu sais, on pense à la démarche de Charlie Chaplin ou de, tu sais, souvent les comédiens vont penser à ça quand ils construisent un personnage de méchant.
Oui.
Ils vont se donner une démarche ou un personnage qui manque de confiance, ils vont se donner une autre démarche. Fait que c'est là qu'on voit que c'est comme si la science rejoignait la rue avec Jules.
Oui, oui, oui. Un petit dernier avant de passer à autre chose. Et on sera en Australie avec Robert Peters. Ça m'a fasciné aussi de par la simplicité du message qu'il a à nous transmettre.
Alors, Robbie, comme on l'appelle affectueusement, lui il devait pas faire partie du film à ce point-là. Il devait nous amener à un certain endroit, puis qu'on fasse un petit peu de visuel, comme on dit dans le jargon. Mais quand on l'a rencontré en tournage, on s'est dit, mon Dieu, mais il est extraordinaire. Fait que ça a été très spontané. Robbie marche sur la plage. C'est un autochtone d'Australie. Et lui, son trip, si on veut dire, c'est de rencontrer des gens et leur montrer sa culture. Qui il est, c'est quoi sa culture. Il se promène avec son boomerang. Il montre aux gens comment lancer le boomerang. Bon, ça fait des accidents des fois, mais il dit... Tu sais, c'est comme juste de partager sa culture. Et puis, il dit à travers ça, ben, les gens repartent, ils se disent, j'ai rencontré un homme autochtone, il m'a fait essayer son boomerang, on a jasé. Tu sais, fait que c'est comme de briser des barrières, des préjugés, peut-être même de défaire enfin de des nœuds basés sur le racisme ou la méconnaissance, mais juste en marchant sur la plage. Puis Robbie, il est très attachant.
Absolument, oui.
Ouais.
Mais c'est encore une fois un autre exemple d'un personnage extraordinaire, ordinaire, dans le sens que c'est quelqu'un de vraiment simple, mais qui a tellement de sagesse à nous partager à travers une simplicité exemplaire. Puis aussi, ben, c'est juste, il est rigolo de la manière qu'il s'exprime, de la manière qu'il est, puis vraiment attachant. Donc, c'est un autre type de personnage à qui on peut... s'inspirer ou se voir même à travers cette personne-là, c'est ça.
Et ce qui m'a frappé, c'est quand il dit « En allant vers l'autre, on élimine la peur. »
Oui.
« Et on inspire la sécurité pour la communauté. »
Exact.
C'est, comme... c'est une belle pensée.
Oui. Ouais.
Ouais.
Très simple.
Alors, il y a d'autres protagonistes. On ne peut pas vendre la mèche complètement. Il faut absolument que les gens aillent voir... le film, le merveilleux film. En terminant, j'aimerais quand même vous poser quelques questions. Est-ce que la réalisation et la recherche pour ce film ont changé votre vie, ont changé votre perception de la marche? Est-ce que vous vivez autrement aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Dans le sens, comme je le disais au début, de ce que c'est pour moi l'initiative fondamentale de ce film, qui est celle d'apprécier chaque pas que je fais. Donc, c'est en plein ça. C'est une appréciation vraiment pour la marche que j'ai. Évidemment, je marche beaucoup plus depuis que j'ai commencé mes recherches ou même avant. Mais ceci dit, la beauté de la chose, c'est que ça vient naturellement. C'est pas, je me force pas à dire, bon, aujourd'hui, je dois faire mon 20 minutes parce que là, j'ai pas fait... Non, c'est... Par exemple, que je prenne un téléphone, je me mets debout puis je commence à marcher dans la pièce.
Oui.
Ou si jamais, au lieu d'aller, quand je vais rencontrer des amis, on va pas tout de suite au bar, on va faire le tour du bloc avant d'aller pour juste prendre le pouls puis prendre un peu d'air. Donc, c'est juste cette idée d'incorporer la marche dans ma vie de tous les jours qui a définitivement changé. Puis par la force des choses, les gens qui se tiennent avec moi, ben eux aussi, ben par association, puisque moi je marche plus eux aussi. Puis j'ai vu à quel point ça infecte les gens.
Il y a un effet d'entraînement.
Oui, vraiment. Puis ça a été une chose que je commence de plus en plus à voir. Puis là, j'ai hâte de voir avec tous ces gens-là qui voient le film. Mais à quel point, lorsque c'est pas forcé sur quelqu'un ou lorsque c'est fait tout bonnement, à quel point les gens le réalisent par eux-mêmes puis que ça se multiplie. Donc ça a été un gros changement aussi de voir à quel point ça peut influencer les gens aussi autour de toi.
Ah, oh, c'est beau. Ben moi, je dirais que grâce à Raphaël... Je suis devenue une marcheuse. Je l'étais comme un peu, mais je n'étais pas comme une marcheuse consciente. J'étais une marcheuse... c'était comme aller d'un point A à un point B des fois. Puis là, ben, j'ai vraiment pris conscience de ce que ça pouvait m'amener puis de la réparation que ça pouvait m'amener. Je pense des fois, on a une perception, puis moi, je l'avais que c'est fatigant marcher. Des fois, je dis aux gens, ben, je m'en vais à un meeting au centre-ville en marchant, puis ben, voyons donc, c'est bien que trop loin. Mais puis là, j'ai pris conscience que pour moi, maintenant, il n'y a plus aucune distance presque là, que je vais trouver trop loin dans ma ville. C'est comme si j'ai pris conscience que j'étais tout à fait capable de faire quelques kilomètres. Puis qu'au lieu de voir ça comme étant fatigant, je vois ça comme étant réparateur. Fait qu'au lieu de me dire « Ah ouais, je vais aller au centre-ville, ça va être fatigant, ça va peut-être prendre trop de temps », je suis comme « Hey, je vais y aller, puis ça va réparer mon corps, puis mon esprit, puis probablement me clarifier les idées ». Fait que ça a l'air tout bête, mais c'est comme si je me dis « Ah ben là, waouh, je vais avoir l'occasion de faire quelque chose de positif ». Je le vois même plus comme étant fatigant, ce mot-là est disparu. C'est comme un plus. Tu sais, je vais aller dehors, je vais marcher, ça va être un plus. Je vais arriver mieux et plus en forme et réparer encore une fois.
Très bien dit.
Il nous reste une minute ou deux. L'avenir, c'est quoi? Un autre film sur la marche?
Pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Il y a d'autres projets, mais ils ne sont pas sur la marche. Mais Raphaël en a un autre sur la marche.
Oui, donc en fait, je travaille activement sur un balado, comme je l'ai mentionné au début, j'avais fait des entrevues avec des chercheurs et des scientifiques au tout début de ma recherche que j'ai transposé dans une série de 5 épisodes qui vont plus en profondeur, dont certains des personnages qu'on retrouve dans le film, puis qui sont vraiment focussés sur le sujet, leur thématique de leurs études, donc vraiment un regard plus profond à ce niveau-là. Puis je suis présentement en train d'en faire un autre en français qui apporte un espèce de regard alternatif sur la marche à Montréal avec des gens de Montréal. C'est une série aussi qu'on fait en marchant. Donc les entrevues se font en sillonnant différentes parties de la ville. Puis évidemment, le but de ce balado, c'est de se balader. Donc pendant que les gens, on invite les gens à marcher pendant qu'ils écoutent le balado. Donc, c'est la version en français, ça sort un peu des plaques-bandes du film à titre des personnages, mais on est toujours pur et dur dans la marche, puis j'essaie de tisser des liens intéressants avec Montréal, dans l'esprit, encore une fois, de peut-être inspirer les gens à sortir puis aller redécouvrir Absolument, certaines oui. choses avec différents regards à travers la marche à Montréal. Donc ça, c'est dans l'immédiat, très, très prochainement, dans les prochaines semaines.
Alors, vous viendrez nous en parler.
Oui, avec plaisir.
Donc, ça va s'appeler aussi « À pied oui. »,« Made to walk » en anglais oui. et « À pied » en français.
D'accord, parce que le film est disponible en anglais. Oui, également.
Oui, le film existe en anglais, donc il est en ce moment en salle de cinéma, oui. mais il va être disponible éventuellement à la location sur le site de Maison 4 tiers. Dans un futur semi-proche, mm-hmm. mais le balado va sortir probablement au mois de juin.
Ah, formidable. Ouais.
En mai ou juin.
Ouais. Juin 2026.
Donc, À pied, Made to Walk.
Et le film en ligne éventuellement pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion ou n'auraient pas l'occasion de voir le film avant.
En salle, voilà. Après la tournée en salle, on peut le sortir en location.
Mais c'est mieux en salle.
Ah oui, oui images, si vous avez la chance images, d'aller oui, le oui. voir sur grand écran.
Formidable. Alors, je rappelle le titre « À pied », une réalisation de Valie Fugulin d'après une idée originale de Raphaël Ettore, l'Italien.
Oui.
La descendance italienne, oui. voilà.
Moi aussi, descendance italienne.
Oh, formidable.
Les deux.
Grazie molto. Hein? Alors, grazie molto de votre visite à Marcher vers le bien-être et longue vie à pied.
Merci, merci infiniment.
Merci.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de leur participation Valie Fugulin et Raphaël Ettore. Merci également à Lisandre Duplé à la technique et au montage. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Pascal Henrard. La démarche, c'est la personnalité qui vagabonde. Parfois elle nous dépasse, parfois elle nous transcende. Toujours, elle nous accompagne. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!